Donc je m'appelle Marielle et grâce à mon travail, je donne des cours de français à des adultes étrangers. J'ai le plaisir de rencontrer des personnes venant de pays différents, vivant depuis peu d'années en France. Et parce qu'on entend beaucoup parler d'elles dans les médias en des termes génériques, mais qu'on les entend peu parler d'elles de façon directe et individuelle, j'ai eu envie de leur donner la parole pour qu'elles nous racontent leur parcours et leur vie ici, qu'elles nous parlent de leur pays d'origine et de la France. Et je leur ai proposé aussi de nous faire écouter une musique de là-bas et une musique d'ici qu'elles aiment particulièrement.
Je suis venue de Kyrgyzstan, de la capitale de Kyrgyzstan, de Bishkek. J'ai 52 ans, je suis célibataire. J'étais avocate dans mon pays et je suis arrivée en France en juillet 2018. Et actuellement, j'habite à Épernay, 51-200.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la raison de ton départ du Kyrgyzstan et puis expliquer un petit peu la situation politique du pays?
Ça, c'est en fait à cause de la situation politique. En Kyrgyzstan, c'était un des pays de l'Union soviétique. Et après son indépendance, comme beaucoup de pays de l'ex-Union soviétique, il s'est engagé sur la voie de la démocratie, mais à cause de la corruption gouvernementale, le pays est transformé en état autoritaire et qui entraînait deux révolutions à cette époque-là en peu de temps. Et nous sommes battus pour construire un État libre, de liberté et démocratique. Mais si je suis ici en France aujourd'hui, cela signifie que nous sommes perdus notre combat. Moi et mon frère, nous avons dû quitter le pays pour sauver nos vies. J'étais avocate, comme j'ai dit. Et lui aussi, on avait notre cabinet avocat.
Tous les deux?
Tous les deux, on a créé notre cabinet avocat. Et en parallèle, j'ai enseigné le droit à l'université.
D'accord.
Mais on a travaillé avec une partie opposition. Et ça est devenu comme ça. C'est devenu dangereux.
Vous avez dû quitter le pays quand il y avait un danger pour vous.
Ouais.
D'accord.
Aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'on était vraiment très naïfs.
Là-bas,
en croyant qu'on peut vraiment se battre et construire un pays. Bien sûr, on n'était pas toutes seules, hein. Mais ce n'était pas impossible. Ce n'était impossible.
D'accord. Donc vous êtes partie, vous êtes partie du
Kyrgyzstan. On est arrivé en France.
En 2018?
En 2018,
oui. Oui.
Donc, il fallait commencer tout à nouveau.
Oui.
Reconstruire notre vie. Ouais, on a laissé tout. La maison, les amis, la famille. C'est compliqué.
Et quand vous êtes arrivée en France, comment ça s'est passé? Alors, qu'est-ce qui a été...
Ben bon, je vais souligner vraiment les accueils des Français.
Oui.
Ça m'a vraiment touchée. Déjà, à la Croix-Rouge, les assistantes sociales, les travailleurs de la Croix-Rouge, la manière qu'on nous a accueillis à ce moment-là, c'était très agréable.
Vous étiez à Épernay directement?
Non, on était à Chalon.
À Chalon, d'accord.
À Chalon, oui. Ils nous avaient fait un café, un thé. Ils étaient très, très gentils.
Ouais.
Et ça nous assurait.
Oui, ça vous a un peu soutenu au départ.
Ouais, voilà.
Et après, il y a eu toutes les étapes d'installation et de...
Oui, c'est les premières difficultés, c'était le logement.
Oui.
Quand on était dans la rue pendant 20 jours.
D'accord.
Et on a dit, c'est pas nous qui décide, il faut appeler à 115. Et 10 fois, 15 fois par jour, on appelait même la nuit. On nous a conseillé d'appeler même la nuit. Donc, toute la journée, presque toute la nuit, on appelait une fois un monsieur qui est énervé. Il lui dit, vous avez appelé déjà il y a 2 heures.
Ouais.
Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de place.
Ouais.
Bon, et après... 115 nous a donné un logement à Chalon, dans un foyer. On est resté 2 semaines.
D'accord.
Et puis on était transféré à Épernay, à Doma.
À Épernay, à Doma.
Ouais.
D'accord.
Et les assistantes sociales qui nous ont venu chercher à la gare, elles étaient très très gentilles,
d'accord,
très drôles, très polies. Ouais,
d'accord,
c'était vraiment.
Bon accueil, un bon soutien.
Très bon accueil, ouais.
Et vous êtes resté combien de temps à Doma?
À Doma, presque, plus que 3 ans.
D'accord, et après vous avez eu un logement?
Ouais, après, quand on a obtenu le statut de réfugié politique, on avait le droit de louer un logement. Et puis on a quitté à Doma.
D'accord. Et ça, les étapes pour avoir le statut de réfugié politique, ça
ouais,
a pris combien de temps?
2 ans et demi.
D'accord.
Ouais.
Beaucoup de démarches.
Peut-être un peu plus. C'est pas plus de démarches. Donc, première étape, c'était à l'OPRA,
ouais,
qu'on refusait. Mais les assistantes sociales, ils nous ont déjà prévenus. Ils ont dit, c'est... dit au maximum 15% des demandeurs d'asile qui obtiennent le statut à l'OPRA. Ça doit être la guerre ou des choses comme ça, mais c'est un pays inconnu en France, Kyrgyzstan.
Ouais. Ouais.
Donc, plutôt, vous aurez la réponse négative. Ils nous ont dit
d'accord,
ça au tout début,
au départ,
hein.
Ouais. Ils n'ont pas donné d'espoir.
Ouais. Et puis, on avait recours au CNDA.
Ou quoi?
CNDA.
Alors,
Cours national demandeur d'asile.
D'accord. Et l'OFPRA, redis-moi ce que
OFPRA,
c'est.
OFPRA, Office français,
De protection.
OFPRA.
De protection des réfugiés, des
apatrides. Des apatrides, voilà.
C'est ça.
Ouais.
Ouais, d'accord.
Donc, et après CNDA, après notre cours, on a obtenu le statut.
D'accord. Mais ça a duré 2 ans et demi, quand même.
Pour ouais, avoir... ouais, ouais.
D'accord.
Ça a duré 2 ans et demi. Et tout, c'était à temps.
Mm.
Ben, en attendant, on n'avait pas le droit ni travailler, ni rien faire. Donc, on fait l'apprentissage de la langue. J'ai eu BA à ce moment-là, déjà. Donc, après, je n'avais pas besoin de suivre des cours de français qui viennent par OFI. Donc, j'ai fait l'apprentissage CIF pour obtenir B2.
Ouais.
Et voilà, après...
Donc, le DELF, c'est le diplôme d'études...
Langue française.
De langue française.
Voilà. Ouais. Et... Grand problème, c'était plutôt premier problème, je voudrais dire.
Oui, vas-y.
C'était la langue.
La langue, ouais,
c'était
ce qui
la
était
langue.
Le plus difficile
ouais,
au départ, c'était la langue.
Quand tu
langue
ne parles pas, c'est difficile. Hein.
Quand
c'est
vous
très,
êtes arrivé
très...
à Chalon, vous parliez comment avec les...
Mon frère, heureusement, il a parlé un peu français et on est tous les deux, on a parlé un peu anglais.
En anglais.
C'était la base du débutant,
d'accord,
c'est pas un niveau, mais c'est quand même ça nous servait.
Oui.
Et puis, c'est pas tous les Français qui parlent anglais. Donc,
ça, c'est sûr. C'était... On n'est pas les meilleurs ouais. en langue.
C'était difficile. Ouais. Quand même, j'ai dit, bah, bon, il faut trouver, il faut quelqu'un commencer à apprendre, mais, c'était juillet, août, c'est mort. Ouais. On nous a dit, c'est les périodes de vacances, il n'y a pas de cours. Donc, on attend de septembre. 7 septembre, ça commençait au club de prévention, cours de français.
Comme ça, le club de prévention à Épernay, c'est là où on prend des cours de français quand on arrive à Épernay.
Pour débutants.
Ouais.
Et deux fois aussi cours catholique avec Anne-Marie et deux fois au club de prévention.
D'accord.
C'est 4 fois. Mais moi, j'ai préféré tous les jours. Si c'est possible, toute la journée, mais il n'y avait pas. Même j'ai cherché des cours intensifs, donc comme tout le monde, je pense. Et ça n'existait pas, mais déjà, à grâce des bénévoles, j'ai réussi. Et après 4 mois, j'ai commencé à parler et communiquer, donc c'était déjà pas mal. Voilà.
Thank you. depuis que tu vis ici, est-ce que tu peux raconter un peu comment se sont passées tes journées? Quand tu es arrivée avec ton frère, vous avez commencé déjà... Est-ce que vous sortiez un petit peu? Est-ce que vous avez rencontré des gens?
Ouais, c'était...
Il y avait les cours de français. Ouais. Voilà, comment ça se passait un peu vos journées?
C'était quand on est arrivé à Épernay. Ça me plaît beaucoup, la ville.
Ouais.
Je trouve que c'est petit, mais c'est très joli. Mm-hmm. Et avec des collines. Ça me rappelait vraiment mon pays montagneuse.
C'est vrai? Ouais.
Ouais. Donc,
avec les vignes, il y a des vignes aussi.
Ouais, des vignes et avec des collines qu'on monte, il a belle vue. C'était vraiment très intéressant.
Ouais.
Donc on achetait pas cher des vélos occasions.
Ouais.
Et essayer faire les vélos partout à Épernay, à côté d'Épernay, des villages. Donc,
c'était, de vélo.
Ouais, au début, hein, ouais. Pas aujourd'hui. Et j'ai rencontré des Français, ouais. Des amis, et donc, c'était des bénévoles. Hein. Quand je connais des personnes françaises, les premières personnes, c'était des bénévoles, mm-hmm. qui donnaient cours de français.
Ouais.
Et puis, on est devenus avec certains comme des amis.
Mm-hmm.
Et ça, c'était plus important. Que même certains, il est devenu comme ma famille, ici.
Ouais.
Vraiment, j'ai dit, ma sœur française.
D'accord.
Donc, j'ai suivi, après, quand j'ai obtenu le statut de réfugié, puis j'ai voulu refaire mes études.
Ouais. D'avocate,
ouais, de continuer mon métier.
Ouais.
Et j'ai eu mon B2, et puis j'ai rencontré des gens, j'ai parlé comment ça fonctionne en France, et j'ai découvert que c'est un chemin très difficile et très long. Et à mon âge, quand je ne suis pas jeune, si j'avais eu 30 ans, j'aurais pu essayer. Parce que j'ai encore le temps.
Oui.
Même à mon âge, j'ai compté et j'ai dit, ah bah, je vais arriver à ma retraite.
Il fallait que tu refasses des études en France.
Oui, parce que le loi, c'est oui. une théorie. C'est la base, je pense, c'est pareil.
Mm-hmm.
Mais il y a tous les lois, c'est pas pareil.
Il n'y avait pas d'équivalence.
Et il faut avoir, je pense, le niveau C2 hein, avant que commencer mes études, parce que déjà, le vocabulaire spécial,
ouais.
juridique,
ouais.
ça, qui parle à ma langue, en kirghize, en russe, qui ouais. est notre langue officielle jusqu'à aujourd'hui, qui parle bien en kirghize, en russe, il ne peut pas si bien maîtriser le domaine juridique, ouais, vous comprenez? Et ici, c'est pour un avocat, la langue, c'est son instrument.
Ah oui.
Il faut bien maîtriser la langue, et après, il faut passer concours, chez nous, c'est pas pareil. Et une dame qui m'a parlé, son fils qui fait des études de droit, et puis il a essayé deux fois mm-hmm. passer le concours pour devenir un avocat, et il a raté, même il a eu des bonnes notes.
Ouais.
Et pour moi, j'ai dit, ce serait impossible.
Le fils, il était d'origine française.
Oui, il est français, oui, il est français.
Dit, oui,
oui, j'ai dit, pas bon, ouais. Sois réaliste. Et j'ai suivi une formation d'assistant administratif Greta,
d'accord.
qui était financée par Pôle emploi.
Mm-hmm.
Et puis j'ai essayé de chercher un travail dans ce domaine-là. Mais ça aussi, c'est pas facile. Hein, avec le nom étranger, avec mon CV sans expérience comme assistant administratif en France,
mm-hmm.
c'est compliqué. Donc, Mais j'ai travaillé dans une association qui a créé un projet après la guerre en Ukraine pour les Ukrainiens, parce que ils ont fait comme l'accompagnement social, ce qui est lié au logement. Et il fallait faire une formation, on peut dire, un atelier pour donner des informations essentielles qui liées avec le logement, parce que pour les Ukrainiens, leur chemin ici, c'était un peu différent que pour les réfugiés lambda.
D'accord.
Ils ont accès tout de suite au logement. Et les autres, ils attendent, comme nous, par exemple, pendant 2 ans, on a appris la langue, on a appris beaucoup de choses avant qu'on ait eu un logement.
D'accord.
Et comme ils avaient aussi beaucoup d'entre ukrainiens, les enfants, déjà, il fallait parler aussi les informations sur le système d'éducation française.
Ouais.
Parce que c'est différent. Et un peu d'histoire, géographie. J'ai fait ça avec un binôme français ou un binôme, un bénévole, toujours, qui peut m'accompagner s'il y a des questions, parce que moi aussi je suis étrangère et je ne sais pas tout. Et donc, comme ça, on a animé cet atelier. Ouais.
D'accord.
Et
après, pour les Ukrainiens, pour les
guider, c'était juste pour les Ukrainiens. Ouais. Et puis, le contrat s'est fini.
Mm-hmm.
Et la direction, il a demandé un financement à l'État pour prolongation. Ils ont voulu animer encore une chose, d'autres trucs. mais.
Il n'y a pas eu l'argent.
Ouais. Donc, aujourd'hui, on a un projet avec mon frère de créer notre propre entreprise.
Mm-hmm.
Et je travaille actuellement sur ça. J'ai suivi une formation, mais malheureusement, je n'ai pas réussi mon examen. Et je suis en train de faire la révision pour repasser mon examen. Donc, j'espère, ça va marcher.
C'est quoi, voilà. Tu veux nous en parler un peu de cette
Oui, il est, quand il était aussi avocat, il ne peut pas aussi non plus continuer son métier ici. Et il a déjà une famille ici, en arrivant en France, mais sa conjointe, il habite en Allemagne. Il a déjà 2 enfants, donc il fallait qu'il commence plus vite possible à travailler. Et il a travaillé dans une usine, et puis maintenant il travaille comme livreur.
Mm-hmm.
Et donc il a découvert que à cette domaine, il peut créer son entreprise et devenir à son nom un prestataire pour gagner plus. Il m'a proposé de s'occuper par des choses administratives.
D'accord.
Pour devenir son chef.
Oh.
J'ai dit, ok, on peut essayer. Donc, voilà.
Vous avez déjà travaillé ensemble?
Oui, on a déjà travaillé ensemble. Oui, mais dans notre pays, on connaît tout. Mais ici, c'est encore un autre chemin qu'il faut gratter. Il faut renseigner.
Oui.
Et encore plus. Donc, on verra.
Donc là, tu vas repasser l'examen, la formation et l'examen?
Non, j'ai suivi déjà la formation. Il faut que je repasse l'examen.
D'accord.
Voilà. Ce n'était pas facile, la formation. Des choses techniques, spéciales.
Avec un vocabulaire particulier.
Voilà.
Ouais.
Pour ça.
Il y avait beaucoup de femmes?
Non, moi, j'étais seule femme. Et c'est domaine masculin, on peut dire.
Ouais.
Et c'était que des Français.
Ouais,
et que
seule.
que des mecs, ouais. On peut dire, que des hommes.
Ouais.
Et moi, j'étais seule femme. Mais ça va.
Il y avait une bonne ambiance.
Ouais, ça va, ça va.
Ouais.
HLM. Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Il y en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Il y en a qui n'ont pas pu de jouer les six symboles. Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge, mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche des vitrines. Talent, c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y sans jamais se faire de mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante.
Alors avant de vivre ici, quelle image tu avais de la France et des Français?
Belle image.
Belle image.
Ouais. La France, elle est connue comme un pays d'origine de parfums, de la mode, du champagne bien sûr. Et je ne le savais pas que c'est d'origine de fromage aussi. Ça, j'ai découvert en arrivant en France. Ouais. J'ai dit une fois à mon amie française que c'est Pays-Bas qui est connu chez nous comme origine des fromages. Ouais. Oh, il a dit, ne dépasse pour les Français. C'est nous, oui, c'est nous. Italien, peut-être un peu, mais c'est nous qui...
Il y a une guerre entre...
Ouais, j'ai découvert qu'il y a plus que 360 sortes de fromages.
Ouais.
Bah c'est énorme.
Ça,
pour nous.
Ça, ouais. Tu ne savais pas avant d'arriver,
ouais.
Tu l'as découvert.
Ça, je ne savais pas parce que chez nous, il n'y a pas de fromage français. Et chez nous, oui, c'est vrai que...
Il y a des fromages quand même.
Oui, ouais. Local et si c'est importé de... C'est vrai que des Pays-Bas ou d'autres pays, c'est pas français.
Mmh.
Et les Français, selon des films, des livres que j'ai lus, donc c'est comme des personnes joyeuses.
D'accord.
ouvert.
Tu as plutôt la réputation d'être un peu râleur.
Non. Chez nous, non.
D'accord, pas.
Ouais, ouverte, artistique.
Oui.
Oui, ça je confirme aujourd'hui.
D'accord, ouais. Ça tu confirmes.
Presque tous les mes amis françaises qui peignent, qui dessinent, c'est vraiment des personnes joyeuses, ouvertes, chaleureuses. En général, je peux caractériser comme ça.
D'accord.
Et bien sûr, dans tous les peuples, toutes les nationalités, ça existe des personnes bonnes et des personnes méchantes.
Oui,
ça existe. Mais en général.
Pas de défaut.
Ouais. En général, je suis contente, vraiment. Ouais. Quand je suis arrivée en France, la manière dont on m'a accueillie, et j'ai entendu, quand les autres étrangères qui ont parlé de racisme, mmh. au travail, mais moi, heureusement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas senti, je n'ai pas encore rencontré, heureusement, le racisme. Comme a dit une amie française, tu es dans une bulle, tu es protégée par tes amies françaises, mais quand tu vas sortir, tu vas voir. Mais quand j'ai commencé à travailler aussi dans cette association, je n'ai pas senti encore. Mes collègues, ils étaient vraiment des personnes formidables. Ils étaient tous polygentils avec moi. Heureusement. Et j'espère, je n'aurai pas dans ma vie, en France, des...
Ouais, bien sûr. Et quand tu as fait ta formation aussi, où il n'y avait que des hommes, c'était aussi une ambiance sympathique?
Oui, c'était aussi une ambiance sympathique. Quand j'ai suivi une formation, Greta aussi, il n'y avait que des Français.
Ouais, d'accord.
Des Français, ah, oui, c'était plupart, seule... c'était des dames et un homme. Mmh. Mais ils étaient tous français. D'accord. Mais ils étaient aussi gentils. Et donc, cette formation dernière que j'ai suivie avec les hommes, ouais. ils étaient aussi quand même sympas. Donc, voilà, j'ai pas changé mon avis, c'est contraire.
Et qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu es arrivée en France? Est-ce qu'il y a quelque chose, quand tu es arrivée, tu t'es dit...
Je pense que les bisous, les manières qu'on les Français, ils peuvent faire la bise avec des personnes inconnues. Hein. Quand on s'est vu la première fois, ils présentent par place, voilà, c'est qui suivait mes cours, il dit bisous, mais c'est pas de côté mauvaise, hein, c'est le contraire, ça me touchait, j'ai dit, ils sont vraiment, franchement, très accueillants, les Français. C'est qu'on, chez nous, on est plus froide, je pense.
D'accord, oui,
il
y a pas.
On n'était pas à bise avec des personnes inconnues. Mmh. Ça, quand on connaît bien des personnes, quelqu'un de famille ou des amis, ou d'autres personnes avec qui tu es proche, on peut faire la bise. Mais sinon, non.
D'accord,
c'était
bise,
oui, mais c'était du côté de bon côté,
oui,
hein,
bien sûr. Et est-ce qu'il y avait quelque chose de négatif qui t'a surpris en arrivant?
Ça, c'est plutôt quand j'ai Paris, par exemple, les aussi belle image, c'est la ville de l'amour, on dit, expression, ouais. Paris, c'est la ville d'amour. Et il y avait un film connu à l'époque de l'Union soviétique, de voir le Paris et mourir.
Ouais.
C'était comme la rêve. Et moi, j'ai déçu quand des endroits touristiques, il y a, c'est sale, hein. Et il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques. À cause de ça, c'est une mauvaise odeur partout. Ah, c'était vraiment, j'étais choquée par ça.
D'accord. Quand t'es arrivée à Paris la première fois,
j'ai déçu. Mais j'aime bien le Paris, de temps en temps, visiter ses rues, c'est vraiment l'architecture, c'est une belle ville. Mais c'est vraiment que c'est partout, sauf que Épernay, hein. Il n'y a pas de toilettes publiques et gratuites. Ah, ouais. Et à cause de ça aussi, ouais. Je pense aux
les gens. Oui, c'est vrai que... Voilà. À Épernay, il y a des toilettes.
Oui, à Épernay, c'est public. Il y a des toilettes publiques dans un endroit public et c'est gratuit à Épernay. Mmh. Parce que c'est une ville touristique et la mairie, il s'occupe bien de sa ville.
C'est plus petit, hein, c'est plus facile de s'occuper des pernées que de Et qu'est-ce que tu as aimé le plus et qu'est-ce que tu as aimé le moins? Alors, ça rejoint un petit peu peut-être ce que tu as dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que tu as aimé beaucoup, beaucoup en arrivant et quelque chose que tu n'as pas aimé du tout, du tout?
Mais pas du tout, ça, je ne me souviens pas.
D'accord.
Je ne me souviens pas. C'est vraiment, c'était que j'ai senti... La liberté, voilà.
D'accord.
C'était, ouais, même en étant dans la rue, en vivant dans la rue, on peut dire, c'était, j'avais une émotion, une bonne émotion.
Ouais.
Parce que ce sentiment libre, ouais. La liberté, les Français, ils ne savent pas, je pense, la valeur de la liberté. Ça, je suis sûre. Ça, il faut vivre dans un régime autoritaire pour vraiment savoir la valeur de la liberté. La génération que vivons en France, n'importe quel âge aujourd'hui, ils sont nés dans un État déjà libre et démocratique. Et pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal, c'est naturel. Parce que vous ne vivez pas autrement. Et c'est très, très difficile de construire un État libre et démocratique. C'est très difficile. Mais je pense que c'est très facile de le perdre. Ce changement du monde aujourd'hui, ça fait vraiment peur. Même en France, la société, je pense, ça change.
Oui.
Avec grande vitesse. Quand je suis arrivée il y a 6 ans, oui. Et qu'aujourd'hui, comment ça change la société, c'est incroyable.
Tu penses à quoi particulièrement?
Mais le résultat de la vote,
oui.
Que la population, ça commence, la plupart de la population française, ça, elle soutient la politique d'extrême droite. Mais l'immigration, c'est un procès permanent. Ça existait toujours.
Un processus.
Ça existait toujours et ça va continuer. Hein.
Oui.
Même États-Unis, le président de Trump, ce qu'il fait là avec la politique d'immigration, mais il faut rappeler l'histoire. Il est peut-être fils de qui? Monsieur Trump. Il vit aux États-Unis, mais il est venu, ses parents, il est venu d'où?
Ouais.
C'est pas leur pays, en origine, on peut dire. Mais ce que ils font, les hommes politiques aujourd'hui, avec cette guerre, avec cette haine, avec les propagandes qu'ils font aujourd'hui, je ne trouve pas le mot, hein. C'est vraiment que ça devient dangereux. Voilà.
Tout à fait d'accord. Alors, je vais revenir à des choses plus légères, mais ouais. Tu parlais de fromage tout à l'heure.
Oui. Ouais,
ça m'intéressait
de savoir. Revenons à nos moutons.
Oui, voilà. Revenons à des choses plus. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est tout à fait vrai. Et voilà, quand tu es arrivée, est-ce que tu as goûté des plats, ou depuis que tu vis ici plutôt, français? Est-ce que tu as eu.
Foie gras déjà au Noël. C'était très très bon. Oui. Ouais, avec du champagne. Française.
Est-ce qu'il y a un plat national ou une boisson nationale ou des plats typiques du pays, dans ton pays d'origine?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on mange typiquement
Ça s'appelle beshbarmak, 5 doigts. 5 mois. Parce que au début, on a mangé ça avec ça, mais
d'accord.
Oui.
Et
aujourd'hui, avec une cuillère, une fourchette.
Et c'est quoi, c'est sucré?
C'est à la base de la viande et du pâte.
De la viande et des pâtes.
Ouais. De la viande et des pâtes.
D'accord.
En France, j'aime bien, comment ça, fondu au fromage.
Ah.
Ça me plaît ouais. beaucoup.
D'accord.
Les raclettes.
Ouais. Ah oui, t'es tombée amoureuse des fromages de France.
Ouais. Trop.
Et est-ce qu'il y a est-ce que t'as pu visiter un peu des monuments ou des sites en France?
Ouais.
À part Paris, que t'as l'air de connaître un petit peu.
Oui, on est allé. Je suis allée, oui, avec, c'est ma mère, une amie qui m'a invitée à Bretagne parce que c'est les vacances.
Ah oui, ouais.
Et il y a cette grosse pierre, comment ça s'appelait?
Des menhirs?
Voilà.
Tu es allé à Carnac?
Ouais.
Bretagne, t'es allé en Bretagne?
Ouais,
c'était
une très belle région. Ouais. J'aimais beaucoup, hein. Il y a encore une autre ambiance, avec le volet bleu, avec le mur blanc. Ouais. L'étoile gris.
Et puis la mer.
Ouais, la mer. c'est une très, très jolie région. D'ailleurs, c'est partout en France. Hein. C'est chaque camp, même village, les villes, ils ont une particularité. Je trouve que c'était un très beau pays, la France.
Est-ce qu'il y a des monuments ou des sites naturels célèbres dans ton pays d'origine que les gens visitent? Parce que le Kyrgyzstan, on se souvient.
Oui, c'est la nature.
C'est la nature.
C'est
la
nature. C'est un pays montagneux.
Mm-hmm.
Et plutôt, ce qui attire l'attention des touristes, c'est plutôt la nature vierge.
D'accord.
Où
la nature un peu sauvage.
Aller, oui, un peu sauvage, ouais. Où on peut aller que à pied ou à cheval.
D'accord.
Il y a un très beau lac, donc c'est la nature.
D'accord. Est-ce que tu as découvert des choses, un objet, un aliment qui n'existe pas du tout
au Kyrgyzstan?
Non, ouais. Pas spécialement.
C'est difficile à dire.
Ouais. Est-ce qu'il y a des choses de ton pays d'origine que tu ne retrouves pas du tout en France? Un objet, un aliment, quelque chose de...
Oui, il y a beaucoup d'objets que je ne trouve pas en France. Oui. Les aliments, pareil.
Ouais.
Surtout, moi, des fois, c'est en été, c'est une boisson à la base de lait de jument.
D'accord.
Fermenté,
oui.
Assez aigre.
Oui.
Si vous goûtez, je pense que vous ne comprenez pas. Parce que les étrangers, les touristes, quand ils arrivent au Kyrgyzstan, on les propose.
Oui.
Mais
c'est une boisson typique kyrgyz.
Oui, les boissons typiques, mais pas que seulement kyrgyz, je pense, c'est pour des Khazars, encore, je sais pas, pour autre nationalité qui sont été nomades, au début, je pense. Mais c'est très bon pour la digestion.
La digestion.
Ouais, bah, voilà.
D'accord. Ok.
Ça aide à digérer plus vite si on mange quelque chose
de
copieux.
Donc, il faut du lait de jument.
Ouais. Fermenté.
Fermenté.
Ouais. Ben voilà. Si un jour vous irez au Kyrgyzstan, vous devez goûter ça.
D'accord. Je note, entendu. Je me demande, les Français, ils ont certaines habitudes un peu typiques. Tu parlais tout à l'heure de faire la bise. Il y a aussi, on passe quand même beaucoup de temps à table, on mange beaucoup de pain, beaucoup de fromage.
C'est pareil, sauf que fromage.
D'accord.
Chez nous aussi, on mange beaucoup de pain, mais on ne mange pas beaucoup de fromage. Mais moi, je m'habitue.
Ah, tu vois,
toujours, il y a
cette habitude.
Ouais, 2-3 sortes de fromage dans mon frigo. Voilà.
Et entre la France et le Kyrgyzstan,
qu'est-ce qui, d'après toi, se ressemble un peu et qu'est-ce qui est très, très différent? Alors après, il y a, j'imagine, beaucoup, beaucoup de différences.
Ouais, c'est plutôt les différences.
Oui.
Qu'est-ce que, c'est plutôt la différence, de tout, hein.
De tout,
presque.
Est-ce que tu veux parler d'un domaine en particulier?
Même le système de l'éducation, le système de santé, ici en France, quand même, l'État, c'est pour la population, hein.
Oui, oui, oui.
Et il s'occupe bien de santé, c'est bien organisé, la sécurité sociale.
Mm-hmm.
Et sinon, non.
Ouais.
Non. C'est un cours, ouais, de faire quelque chose.
Oui.
Mais c'est pas comme en France. Et le système d'éducation aussi, c'est différent.
Ouais.
Le politique, bien sûr, c'est différent. Tout est différent.
La politique, là, donc régime autoritaire.
Ouais, comment... c'est le régime autoritaire. Aujourd'hui, ça devient encore pire.
Ouais.
Ça n'est plus notre espoir de rentrer.
Mm-hmm.
Au début, j'ai attendu.
Ouais,
quand on était ici en France, en 2020, on est arrivé en 2018.
Ouais.
En 2020, il y avait la troisième révolution. On changeait le pouvoir.
Ouais.
Mais ça n'est pas donné grand chose. C'est contraire. Ça devient encore plus autoritaire. C'est comme ils ont écrit un livre d'instruction en Russie, quand ils ont donné ça, notre pouvoir, ça me semble de ça, ça commençait, la propagande, les médias.
D'accord, les médias, évidemment.
Ouais, comme ça a été fait en Russie.
Mm.
Ça, c'est dangereux.
Et au niveau de l'art, de la culture, comment ça se, est-ce qu'il y a quand même des créations, des artistes qui se permettent de...
Bien sûr, heureusement.
Heureusement,
oui, il y a des talents.
Qui peuvent se produire, il y a quand même une certaine liberté d'expression.
Non, ça c'est pas possible.
Oui.
Aujourd'hui, c'est pas possible.
Oui.
Quand on était là...
Oui.
Avant de partir, il y avait quand même un peu de liberté dans ce domaine-là.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, tout est contrôlé.
Oui.
Donc, ça devient...
Il n'y a plus aucune liberté.
Non.
Est-ce que tu peux parler un peu de la place des femmes, le principe d'égalité un peu homme-femme dont on parle beaucoup en France? Au Kyrgyzstan, c'est un concept complètement...
Par rapport aux autres pays voisins,
ouais,
de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, etc., on a quand même l'égalité.
D'accord.
Et sur le travail, sur le salaire, ça a été vraiment égal dans l'époque de l'Union soviétique et ça continue.
Mm-hmm.
J'étais surpris que les femmes en France... ils ont commencé à voter assez tard, hein. Par rapport à notre pays, on peut dire.
Vous, c'était dans quelle année?
À partir de la création de l'État soviétique,
ouais,
dans notre pays. Et les femmes, elles ont quand même participé au début aux élections.
Ouais.
Mais ça existe, la violence conjugale. Mais pour le travail et sur le salaire, c'est pas trop. Surtout sur le salaire, c'est pas les différences. Comme en France, on m'a dit, ça existe. Et pour même poste, pour les hommes, c'est
plus élevé.
Et pour les femmes, c'est plus bas.
Mm-hmm.
Ça m'a surpris.
Il n'y a pas ça au Kyrgyzstan.
Non, il n'y a pas. Mais dans certains domaines, ils préfèrent que c'est pour les hommes. Par exemple, les chauffeurs de camions.
Mm-hmm.
poids lourd.
Ouais.
En France, j'étais étonnante quand j'ai vu des jeunes femmes qui conduisent. Et chez nous, j'ai jamais rencontré une femme qui conduit un grand camion. Ouais. Il y a des domaines masculins, on peut dire. Sinon, pas trop de différence. Mais par contre, chez nous, il y a une tradition bizarre qui est interdite par la loi, bien sûr. Il y a une punition par le code pénal, enlèvement des femmes pour le mariage.
Oui.
Mais dans le XXe siècle, ça existe encore,
d'accord,
malheureusement.
Des hommes enlèvent des femmes pour, les,
pour faire le mariage, voilà. Ça existe.
D'accord.
Ça, c'est un grand problème de la société.
D'accord. Est-ce que tu peux me dire une phrase en kirghize? Ce que tu veux. Tu n'es pas obligée.
Oui, je peux. Non, non, non. Je réfléchis. Quelle belle phrase à dire. Rahmat, c'est d'une chakroum ouzra. D'une rahmat, c'est d'une jardam ouzra. Bardek Francouz Elin, Chin Jurokten, Razichalok, Bildremin, Bardek Francouz Elin.
Et tu peux nous dire ce que ça veut dire?
Oui, je veux dire merci pour votre invitation, pour cette émission. Et merci pour vous, pour votre aide. Et je voudrais remercier tous les Français pour leur accueil, les étrangers.
Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci beaucoup à Radio Primitive, Émilie, Gustine de m'aider à concrétiser ce projet. Merci beaucoup à la médiathèque Simone Veil à Épernay et sa directrice Marianne Fuss de nous accueillir dans ses locaux pour réaliser les enregistrements. Enfin, merci à vous, auditeurs, auditrices, qui avez eu la curiosité d'écouter ce podcast et rendez-vous le mois prochain.